Bonjour tout le monde, c'est Ida à vos micros. Alors ce mois-ci, j'ai fait mon pèlerinage annuel à Paris, là où j'ai vécu plus de 30 ans de ma vie, avant de m'installer à Montréal. J'en ai profité pour tendre mon micro à un ami, une personne importante de la scène hip-hop en France. J'ai nommé François Gautré. Alors François, à la base, c'est un camarade de classe de ma grande sœur Camille, quand on habitait dans le 19e à Paris. Puis par la suite, on a notamment organisé ensemble deux éditions de l'Urban Film Festival à Montréal, en 2016 et en 2017. Donc me voilà à Paris, après avoir mangé un bon falafel dans le Marais avec lui, et on se pose dans un petit parc, le parc de l'Hôtel Scellé. Donc l'occasion était trop tentante pour lui tendre mon micro et de discuter de plusieurs sujets, tels que l'Urban Film Festival et de la dernière exposition Hip-Hop 360 à Paris, dont il était le commissaire d'exposition, qui a vraiment été un franc succès. Et on a aussi esquissé quelques sujets sur ses futurs projets, avec notamment les JO de Paris 2024 et aussi de la conscience écologique dans le hip-hop. Donc pour commencer cette interview, peux-tu te présenter s'il te plaît ?
Donc je me présente, François Gautré, je suis à l'origine danseur et très vite entrepreneur dans le sens où je fonde l'association Airstyle qui a pour but de promouvoir les cultures urbaines et à travers plusieurs axes, c'est-à-dire la transmission de savoir, la formation, l'événementiel, la diffusion d'artistes et au fur et à mesure du temps, la mise en place d'une médiathèque, d'un centre de ressources des cultures urbaines.
Tu sais que juste pour faire une petite pause, je me rappelle les premiers danseurs hip-hop que j'ai vus, je pense que c'était toi, avec tes potes. Je me souviens à l'école Tanger dans le 19e, il y avait un préau. C'est un peu nébuleux dans mon esprit, mais je crois qu'à l'heure du midi, ça dansait et je crois que c'est là où j'ai vu mes premières coupoles. Hein.
Ouais, grave, bah c'est Monsieur Tibérien, c'était le prof de gym, qui pendant la pause de midi mettait de la musique pendant une heure dans le préau. Et c'est là que je commence la danse finalement.
C'est dans les années
89.
89, hein.
Ouais, 89. Ok. 90, 89, 90, ensuite je passe au collège.
À Georges Méliès.
Ouais.
Ok. T'as organisé l'Urban Film Festival. D'ailleurs, là, c'était...
La 17e édition dernièrement, là, le week-end dernier, au Hall. Et donc, l'idée, c'était d'organiser un festival de films sur la vie dans la ville, mais avec ses pratiques artistiques et à la fois sociales, culturelles. C'est les films de la ville. Donc là, on a organisé une compétition, un battle de courts-métrages avec deux courts-métrages par catégorie, en documentaire, en fiction, en film d'animation, en performance. On a invité un jury qui découvre les films en direct et chaque réal défend son film en mode battle, quoi. Et le jury découvre les films en même temps que le public et délibère dans la foulée.
Mais l'idée originelle de l'Urban Film Festival, c'était quoi à la base pour toi ? C'était de pousser la réalisation, les réalisateurs, c'était quoi
Bah, à l'origine du projet, moi-même, je réalisais des petites vidéos et je me suis rendu compte que j'étais un peu un ovni dans la planète des films hip-hop et tout ça. Quand je participais à des festivals de courts-métrages, bah, j'étais le seul à présenter du hip-hop. Et je me suis dit qu'il y avait... Enfin, les films, ils me ressemblaient pas. Et je sais pas, je voyais pas de challenge, quoi. OK, mais on était tellement différents que... Il n'y avait pas de... Je sais pas, j'arrivais pas... On se reconnaissait pas. Et de là, en fait, je me suis dit que j'allais lancer mon propre festival. Et avec Ayette, d'ailleurs, on a cofondé le festival. Ayette, qui est ma femme. Et du coup, en 2004-2005, officiellement, on va voir le cinéma de notre quartier, qui est le MK2 Katzen à Stalingrad. Et on leur propose d'accueillir ce festival qui était à l'origine très hip-hop. Hein, c'était festival de films hip-hop même à l'origine. Et on a reçu des quantités de films, même des rushs. Il y en a qui nous disaient « Ouais, mais en fait, j'ai des films, ils ne sont pas montés, mais je vous envoie quand même, c'est de la matière qui pourrait peut-être vous servir. » Et en fait, on a reçu des VHS, des DV, des DVD, des bêta cam, enfin tous les formats que tu peux imaginer. Voilà, donc de là, en 17 ans maintenant, en 17 éditions, bah, c'est devenu une référence dans le paysage de l'audiovisuel, de l'urban style, on va dire. Et on voit bien qu'il y a un engouement sur ces sujets, puisque aujourd'hui il y a pas une plateforme qui propose pas des films sur cet univers-là. On voit bien, même Disney a fait la série sur le Wu-Tang. Il y a Brutix, il y a Prime Video qui a plein de films sur le sujet, Beastie Boys dernièrement, ou alors Netflix forcément. Et donc voilà. Le prochain challenge, c'est de les mettre en compétition sur des formats plus longs.
On pourrait enchaîner peut-être avec Paris 2024, peut-être, ton projet ?
Ouais, et peut-être même avant ça. Vas-y. Donc dernièrement, j'étais le commissaire de l'exposition Hip Hop 360 à la Philharmonie de Paris. Et dans cette lancée, parce que c'était une première, et en plus le hip-hop qui rentre par la grande porte avec la Philharmonie, c'est pas rien. Et dans le paysage culturel et sportif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend pas mal parler du breaking qui rentre au JO pour Paris 2024 et les sports urbains. Et dans cette lignée, d'autant plus qu'on a l'expo a remporté un franc succès, on a fait 162 000 visiteurs, on a eu des relais dans les médias spécialisés et généralistes, aussi bien dans Vogue ou Elle, par exemple, ouais. Côté mode, ou alors Beaux-Arts Magazine, ou alors Le Monde, enfin vraiment tout le monde a relayé, c'était impressionnant, même Télérama, les télés,
une grosse visibilité
incroyable, et de là forcément ça a donné des envies. D'ailleurs,
c'est quoi le truc le plus fier dont tu es le plus fier de l'exposition ?
La fierté, c'est d'avoir réussi à différents niveaux. C'est d'avoir réussi à intéresser les différentes générations, aussi bien les plus jeunes. Qui était un des objectifs pour la Philharmonie aussi, c'était d'intéresser et rajeunir leur public, leur fréquentation, le public de la Philharmonie. Donc ça, ça a été réussi. L'autre challenge, ça a été de réunir les acteurs du mouvement et que ça soit pas... comme je viens aussi de ce mouvement-là, c'est pas, un sociologue ou un journaliste qui l'a monté. Non, c'est un acteur du mouvement, danseur, ancien danseur. Donc, par la communauté, ça a été très apprécié. Et ça, je remercie la Philharmonie parce que du coup, ça a été...
Comment ils t'ont fait confiance, la Philharmonie ? Justement, tu étais légitime.
J'étais légitime, et c'est surtout qu'on n'est pas nombreux à avoir archivé tout ça, sur des choses sur le mouvement hip-hop, d'être passionné et avoir un regard pluridisciplinaire. Parce qu'effectivement, il y a des journalistes qui vont être spécialisés sur le rap, mais si on parle de danse, si on parle de mode, si on parle de graffiti, si on parle de beatbox, de beatmaker, de street photographeur, de réalisateur, de radio, d'un coup, ça devient plus flou pour beaucoup. J'ai eu la chance, si on doit comparer avec la naissance d'Airstyle que j'ai fondée en 99, ça fait un petit bout de temps. C'est aussi le fruit d'un travail collectif, dans le sens où j'ai rencontré les acteurs du mouvement depuis un certain temps, et il y a une certaine confiance aussi qui s'est installée. Quand je démarche, Dynasty qui me connaît, ou Cut Killer, ou DJ Abdel, ou Sophie Bramley ou Kerry James, Kerry James, je l'avais programmé 2 ans avant sur l'Urban Film Festival, il y a forcément un lien. On n'est pas sur une terre inconnue. Ils arrivent, ils sont dans une relation de confiance. C'est ce qui a fait aussi la fluidité de la fabrication de cette exposition.
D'ailleurs, je me rappelle, c'était une exposition très immersive avec justement le 365. Est-ce que tu as une anecdote par rapport, par exemple, à l'affiche, la fameuse affiche
du New York City Rap Tour? Alors ça, effectivement, c'est la première tournée qui arrive. Enfin, c'est le hip-hop arrive en France avec les Rocksteady, avec Africa Bambaataa, avec DST, avec Futura 2000, Dondi. Enfin, tous ces acteurs-là. Pour le symboliser, en exposition, il ne suffit pas de le dire et de l'écrire, il faut le visualiser. Et donc, j'ai cherché des éléments visuels pour parler, pour raconter cette histoire. Et je cherchais partout des images impossibles à trouver. Et j'ai quand même réussi à trouver des petites vidéos dans les archives de TF1 de cette tournée, donc qui arrive en 82 au Bataclan et à l'hippodrome de Pantin. Mais je voulais aussi un support papier, tu vois, une image. Par hasard, un jour, je tombe sur une story de Crazy Legs qui fait un visio, quoi, enfin, chez lui, et je vois cette affiche derrière lui, chez lui. Je dis waouh, je le contacte. Et je dis voilà, je suis en train de préparer une expo, ça fait peut-être, je sais pas, 10 ans que je cherche cette affiche, je la trouve pas, et je vois que tu l'as chez toi et tout, c'est incroyable. Il me dit, je lui dis c'est bien celle-là et tout, je lui dis tu peux nous la prêter pour l'expo et tout. Il me dit ah non mais elle est collée sur un support, c'est pas possible, je peux pas te l'envoyer, elle est rigide, c'est compliqué. Je dis ah mince et tout. Je dis bah, tu sais quoi, si tu veux, je t'envoie un photographe chez toi. On prend la photo, on fait une reproduction. Et il me dit ah ouais, mais non, mais t'as vu maintenant aujourd'hui avec le NFT et tout, c'est compliqué, reproduction, truc. Et il n'était pas chaud.
Okay.
Je dis ouais, mais allez, vas-y, un support numérique, t'inquiète pas, ça va pas tourner. Et on te paye même le support numérique parce que c'est une pièce essentielle pour nous dans la narration de l'histoire. Et oh là là, il se gratte la tête et tout, et il hésite et il nous l'envoie pas quoi.
Ouais.
Mais le truc c'est que en fait du coup il est assez fier de malgré tout de ça certainement et de cette reconnaissance et il la prend en photo mais de profil, tu vois, pas exploitable.
Okay.
Et il la poste sur Instagram et il dit voilà, alors ça c'est un événement très important, c'est l'arrivée du hip-hop en France, j'en ai fait partie dans les danseurs et tout ça, je suis le seul à avoir cette affiche exemplaire unique. Waouh. Et par chance, incroyable, il y a un mec qui commente, j'ai la même. Moi, j'y crois pas, c'est pas possible. Et je contacte le mec et tout, il habite aussi à New York. Je lui dis, mais c'est vrai et tout, tu peux m'envoyer une photo et tout. Et il m'envoie la photo et je lui dis, mais on pourrait la voir en physique, en vrai et tout. Il dit, ouais, bien sûr et tout. Donc j'ai mis en relation avec la prod de l'expo et il nous l'envoie, un truc de fou, hein, il nous l'envoie. Et on a pu présenter l'affiche originelle du New York City Rap Tour qui arrive donc en 82 à Paris.
C'est une bête d'histoire. Franchement, c'est trop cool comme histoire.
Bah la suite de l'expo, finalement, c'est que j'ai été repéré aussi. On s'est dit, tiens, comment on pourrait parler de Paris 2024 et des sports urbains et ce côté hybride qu'il y a dans ces pratiques entre culture, sport.
Parce que Paris 2024, il y a quoi ?
C'est le breaking, c'est les disciplines, les sports urbains qui entrent au JO, donc avec le BMX, le skate, le street basket, basket 3-3, et le breaking, et l'escalade sportive, et dans les nouvelles disciplines urbaines. Et en gros, ils m'ont proposé un espace dans Paris. La possibilité de raconter sous forme d'exposition participative et à la fois sensorielle, quoi, parce qu'ils ont bien aimé le côté événementiel de l'exposition et pas traditionnel. Et du coup, là, en ce moment, je suis sur la fabrication de cette exposition. Et aussi, pour moi, il y a un truc important, c'est que finalement, on va parler des sports urbains. Il faut quelque chose de très visuel, mais aussi, il y a toujours ce côté d'être utile à travers les projets qu'on fait. Et à travers cette expo, j'ai l'intention, en tout cas, c'est de proposer une démarche aussi qui pourrait donner le ton sur l'écologie et aussi l'énergie. Il n'y a pas longtemps, sur l'Urban Film Festival, j'ai lancé un contest de films sur cette approche écologique qu'on peut avoir les street artistes, les graffeurs. On sait que les bombes à aérosol, c'est bourré de solvants, et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les murs numériques, ça entretient cette dynamique-là d'user de la bombe à tire-larigot. On se repasse du jour au lendemain pour alimenter les réseaux parce qu'il faut alimenter, il faut repasser son mur tous les jours, il faut avoir un mur numérique. Voilà, et donc on se rend compte, ça c'est Marc-Aurel Vecchione qui avait fait ce constat-là, qui m'avait dit, putain, te rends compte, j'ai fait un terrain et j'ai eu une prise de conscience incroyable, c'est que quand au moment où j'ai fait mon graphe, je me suis retourné, j'ai vu une montagne de bombes aérosols et je me suis dit, mais merde en fait, tu vois, prise de conscience. Et moi, il m'a mis dans cette vibe-là et je me suis dit, mais merde, c'est vrai que à notre niveau, petit niveau, si on peut influencer les fabricants, si on peut changer les mentalités ou faire prendre conscience de l'impact qu'on a, même à petit niveau, tu vois. Mais si d'un coup, il y a des bombes aérosols à l'eau, ou s'il y a d'autres techniques, de la craie, ou alors d'accord, aujourd'hui, tout n'est pas encore au top pour les graffeurs, mais s'il y a un mode de consommation différent, une prise de conscience, je pense que ça peut faire évoluer les choses. Et sur un autre niveau, sur les pratiques sportives, je pense que, tu vois, on a tous en tête l'image de la petite dynamo quand on roule en vélo pour éclairer, pour allumer la lumière, ouais. On crée de l'énergie, ouais. Et je suis sûr que si on imagine un plateau de danse sur lequel on fait tellement on dépense tellement d'énergie, on saute, on fait des mouvements de danse, si on imagine une espèce de dynamo comme ça pour créer notre propre énergie et être dans une logique utile, je suis sûr que voilà, on peut changer la donne, on peut donner en tout cas cette idée de d'éco-responsabilité et que en fait à tous à notre niveau on a notre impact.
Hip-hop et écologie.
Yes.
Saison 1. Bon bah c'est cool. Est-ce que tu veux rajouter des trucs ou quoi? Des messages, je sais pas moi, un petit message universel ou un petit un truc pour la paix dans le monde.
Bah ça on aimerait bien hein, que ça se passe, mais on sait que c'est difficilement possible, donc il faut vivre avec le yin et le yang, c'est-à-dire faut savoir, il n'y a pas de lumière sans obscurité, il faut savoir vivre avec les deux et en fait en tirer une force et parfois un malheur te tire vers un bonheur et voilà, donc pour le yin et le yang.
Okay. Et juste pour terminer, en fait ma compagnie de production de podcast, elle s'appelle Dim Sound. C'est pour dim sum, c'est les petits plats chinois, les petites okay. bouchées. Donc on fait des bouchées sonores okay. en fait. Et donc moi je voulais juste savoir pour toi, c'est quoi ton bruit ou ton son préféré dans la vie, tu vois?
Tout dépend le moment de la journée, mais des fois c'est vrai que j'aime bien le tatin. Celui-là c'est Netflix. Mais mais parfois j'aime bien le kss. Ça c'est la canette, tu vois, que quand il fait bien chaud et voilà. Parfois j'aime bien le et en fait ça c'est les pas de danse sur un parquet, tu vois. En fait tout dépend, mais sinon là comme on est dans un jardin et tu m'interviews, je dirais les oiseaux.
Super, merci beaucoup.
Merci à toi.
Yes.
Dim Sound, les bouchées sonores.